Parole d'auteur. Parole d'auteur. Jeanne Videau.
L'Or des Pyrénées a donné lieu à de nombreux récits, sous des formes et pour des publics différents. L'Or des Pyrénées, c'est-à-dire l'or mis de côté par les républicains pour le protéger de l'arrivée des nationalistes. On peut citer le roman de Serge Rubin, Pour tout l'or d'Espagne, paru en 2019 aux éditions Jasmin, ou Le trésor perdu de la guerre d'Espagne, la bande dessinée en 3 tomes, réalisée par Philippe Guillaume et Pierre-Emmanuel Desquestes, publiée chez Marabule, et dont le 1er tome vient de paraître, L'or de Carthagène. Je ne sais pas si vous étiez au courant, Bertrand de Touzet.
Non, pas du tout.
Aujourd'hui, c'est donc Bertrand Touzet qui s'appuie sur cet épisode légendaire de la guerre civile espagnole pour son roman entre poésie et histoire, L'or du Vallespir, la légende oubliée des Pyrénées chez TDO Éditions. Bonjour Bertrand Touzet, la liste est longue des œuvres de tout genre consacrées à cet épisode historique qu'est donc la mise à l'abri de l'or républicain au moment de la fin de la guerre d'Espagne. Vous-même, vous faites référence à 2 autres ouvrages à la fin de votre livre. Le 7e camion, le trésor perdu de la Révolution espagnole, d'Assunta Montella, et le trésor de la guerre d'Espagne, recueil de nouvelles de Serge Pey, que nous connaissons bien ici à Toulouse. Alors, Bertrand Touzet, vous êtes natif de Toulouse et vous êtes très attaché à ces Pyrénées. Votre premier roman, Judith ou les amours résistantes, pour lequel vous étiez déjà venu à Radio Présence avec Philippe, parlait également du traumatisme et de l'exil provoqué par la guerre d'Espagne. Avant d'aborder ce contexte particulier, pouvez-vous nous faire un bref retour sur votre parcours d'écrivain ? Je crois que vous en êtes à votre 6e ouvrage et vous en avez d'autres en préparation.
Oui, tout à fait. Alors, Judith, c'est mon 3e roman d'un point de vue chronologique. C'était mon premier chez TDO. C'est mon premier roman historique, mais c'est mon 3e roman édité. Et mon premier roman, c'est Aurore, justement, qui a comme cadre les Pyrénées, la vallée d'Or, qui est une vallée que je connais bien. C'est une vallée dont originaire ma famille, en fait.
Voilà. D'accord. Après, vous êtes, dans votre parcours d'écrivain, il y a des romans historiques et d'autres plus contemporains, en fait, hein, plus psychologiques, je crois.
Ouais, alors moi, je suis masseur kinésithérapeute et je n'étais pas du tout fait au départ pour écrire, en fait. J'ai fait des études scientifiques. Mes profs de français m'ont jamais encouragé à me pencher sur l'écriture et c'est vraiment une démarche qui m'a un petit peu échappé, je ne sais pas pourquoi. Un jour, je me suis mis à écrire quelque chose qui était Aurore. Et quand je me suis retrouvé avec toute cette chose, en fait, ce roman, je suis allé jusqu'au bout des choses et je l'ai envoyé à une maison d'édition qui a été emballée. Ça a été le début de l'histoire. Et donc, en 8 ans, j'ai écrit. Il y a 6 romans qui ont été publiés et je continue à l'être. Voilà.
Une fois brièvement posé votre décor à vous, vous allez peut-être nous en dire un peu plus sur les faits historiques qui ont donné lieu à votre roman, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, même s'il y a eu beaucoup d'ouvrages dessus, tout le monde ne connaît pas forcément cet épisode particulier.
Oui, mais même moi, je ne le connaissais pas avant de m'intéresser à écrire ce roman. En fait, si vous voulez, j'avais écrit Judith sur une démarche personnelle où je mêlais la petite histoire à la personnelle, que ce soit sur la guerre d'Espagne ou sur l'occupation à Toulouse. Et mon éditeur m'a dit, bah, écoute, il avait bien aimé ma façon de voir comment traiter un roman historique. Et j'ai dit, écoute, moi, je n'étais pas programmé là-dessus, mais pourquoi pas. Et j'ai tapé un jour sur Internet, mystère Pyrénées, je suis tombé sur un article parlant du trésor républicain, je me suis intéressé à tout ça et j'ai découvert un peu, avant mes lecteurs, l'histoire du trésor
oui,
de la République
espagnole. Une histoire complexe, parce que, et d'ailleurs, pas toujours très, qui paraît un peu embrouillée, parce qu'il y a eu plusieurs, d'abord, il n'y a pas eu que de l'or qui a été transporté, hein, puisque vous le disiez
c'est
d'ailleurs.
C'est ce qui
dans
met le doute, en fait, sur l'existence de ce camion perdu, en fait. Alors, sur le trésor lui-même, il n'y a pas de problème. En fait, c'est Negrin qui, voyant que la guerre était perdue, a mis l'or des caisses de la République espagnole à l'abri dans des mines de talc à la frontière espagnole de l'autre côté des Pyrénées, pour quand la République allait tomber, transférer tout ça. Il a fait de même avec les tableaux du Prado, parce qu'en fait, le Prado avait été bombardé par les nationalistes, et ils avaient peur en fait que tout soit détruit, donc ils avaient mis tout ça à l'abri. Et quand la République est tombée, en fait, ils ont chargé tout dans des camions et ils ont fait passer ces camions en même temps que tout le flux des réfugiés par les routes de l'exil. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on parle, bah, je le dis à la fin du livre,
dans les annexes.
On parle de l'or perdu, mais en fait, sur les camions, effectivement, les gens s'accordent pour dire que tous ne sont pas passés dès le premier jour, mais après, ils ont essayé de repasser tout ça. Et ils n'ont pas perdu de tableaux, comme les tableaux et l'or étaient dans les mêmes camions, en fait.
Probablement
s'ils avaient perdu un camion, ils auraient perdu des tableaux. Donc, ils ne savent pas. Voilà. Et puis, tout ce qu'il y a...
Ça représentait un sacré convoi, d'ailleurs.
Oui, parce que là, on parle sur Assunta, elle parle de 7 camions, mais c'est les 7 qui sont partis de la Valjol.
C'est ça.
Alors, on parle plutôt de 57 camions, en fait. Donc,
c'est ça.
Où il y avait les tableaux et l'or, parce qu'ils étaient non seulement à la Valjol, mais c'est aussi dans le camp de San... j'ai perdu le nom de ce château à Figueras.
Oui, vous en parliez en effet dans votre livre.
Et donc, il y a quand même beaucoup... Il y avait un gros convoi, voilà.
Oui, tout ça, c'était quand même, ça représentait beaucoup. Oui. Et il y avait déjà eu des transferts, je crois, financiers, non, entre.
Alors après, il ne faut pas confondre l'or qui était stocké et l'or qu'on appelle l'or de Moscou.
Voilà.
Souvent, les gens font cet amalgame entre l'or des républicains et l'or de Moscou, qui était justement de l'or qui a servi. Qui devait servir à avoir des armes
par
Moscou, mais il n'y a jamais eu d'armes, mais l'or est parti. Voilà.
C'était voilà. Staline à l'époque.
Voilà,
Staline
donc
il était relativement cynique.
Voilà, tout à fait. Mais ce qui a aussi participé à ce mythe-là, aussi, il y a plusieurs éléments. Il y a eu des recherches sur les plages, notamment celle du Raku, où se passe une partie de mon livre. En fait.
Oui.
En cherchant bien, c'était pas les républicains qui cherchaient de l'or, mais en fait c'était le gouvernement français qui regardait s'il n'y avait pas d'armes qui étaient cachées sur la plage. Voilà, il y a plein de choses qui se sont rajoutées qui ont fait que ça, il y a
ça
toute
a
une mythologie,
tout un mythe.
Ça, par rapport aussi à l'enrichissement de certaines personnes de deux côtés de la frontière, où ils se disent tiens, il y a dehors de l'or qui s'est perdu, mais en fait cet enrichissement peut s'expliquer par le fait que quand les Espagnols quittaient leur pays, ils laissaient pas mal de choses, donc du côté espagnol. Et quand ils franchissaient la frontière, il y a une anecdote sur le fait qu'ils cachaient les bijoux dans les troncs d'arbres. C'était des chênes-lièges où il y a des trous où on peut cacher. Et justement, j'en parle un petit peu. Félix trouve les bijoux. Au bout d'un moment, il dit c'est pas normal. Voilà. Et ça, c'est des anecdotes qui sont vraies, qui peuvent faire que. Les gens peuvent penser qu'il y ait eu de l'or qui se soit perdu.
Oui, voilà. Que certaines personnes se sont enrichies. Voilà. D'autant qu'en plus, ce que vous décrivez, c'est quand même des milieux qui sont a priori très pauvres.
Oui.
Ce qui fait que l'enrichissement, même minime, se voit tout de suite.
Oui, se voyait de suite. Après, il y a eu, comme dans d'autres endroits, des passeurs qui se sont enrichis en faisant
passer
les gens. Là, je suis dessus parce que je suis en train d'écrire un autre roman sur la résistance dans les Pyrénées. Et là où on parle justement des passeurs qui, non seulement sur les côtés espagnols, mais après aussi pendant la résistance, qui permettaient aux gens de passer, qui se sont un peu enrichis aussi là-dessus. Quoi.
Un peu.
Un peu.
D'accord. Et pouvez-vous nous dire désormais ce qui vous a poussé à revenir à ce sujet précis ?
C'est justement, comme je vous le disais, quand j'ai recherché, c'est un petit peu le hasard, en fait. Quand j'ai cherché un mystère sur dans les Pyrénées, je suis tombé sur cette période-là encore, sur la République espagnole.
Ah, vous faites des recherches quand même.
Et après, une fois que j'ai trouvé ça, ça aurait pu être...
Vous ne cherchez pas tout à fait par hasard.
Ça aurait pu être, je ne sais pas, un mystère qui se passe pendant le Moyen-Âge. Ça aurait pu partir là-dessus, mais c'est vrai que je suis tombé sur ce camion, et puis... j'avais déjà écrit donc un peu sur la guerre d'Espagne, donc j'avais une sensibilité là-dessus. Et je me rends compte que le troisième roman que je vais sortir chez TDO, ça parle aussi de la... On est toujours en 39-45, l'occupation. Je suis toujours sur les chemins de la liberté. Je parle un petit peu aussi des Espagnols qui vont aider les maquisards. Voilà, je retrouve toujours le même contexte, en fait.
Est-ce que vous avez des raisons familiales de vous pencher sur
J'ai,
ce
alors moi,
sujet
j'ai des
ou...
racines espagnoles. Voilà. D'ailleurs, le début de mon premier roman, Judith, se passe dans le village dont est originaire ma famille.
Oui, d'accord. Donc il y a quand même cet enracinement, vous
Voilà, une
tenez
volonté
à
d'en
vos...
parler. Et puis, je me suis rendu compte que, bien, en fait, on savait rien sur la guerre d'Espagne, ou très peu, que les gens commencent juste à s'intéresser à ça. Et donc, ça m'a permis de faire prendre conscience de certaines choses, notamment dans l'histoire toulousaine, où ces républicains espagnols, qui n'ont pas forcément été bien accueillis, c'est quand même eux qui se sont battus aux côtés des résistants. Et c'est. Pour l'anecdote, c'est la première voiture qui est rentrée dans Toulouse libérée, c'est une voiture de République avec le drapeau républicain espagnol. Cette histoire, on la retrouve aussi quand, justement, dans l'ordre du Vallespir, quand je parle de la Nouébé, où c'est des républicains espagnols
C'est ça.
qui sont rentrés les premiers avec le général Leclerc,
Leclerc, oui.
les blindés, mais c'était des républicains espagnols à qui on avait interdit de. On avait fait effacer les noms de leurs blindés où ils avaient le nom de leur bataille et de leur ville, mais ils ont
Ils
quand
ont
même,
mis Teruel, quand même.
à qui on avait interdit aussi de brandir le drapeau républicain, mais qu'ils brandissent quand même en rentrant dans Paris, quoi. Voilà.
Ils étaient obéissants, mais pas jusqu'au bout quand
Voilà, à un
même.
moment donné, quand même, ils avaient le droit de le faire, quand
Oui, ils ont payé d'ailleurs un lourd tribut.
même. Oui. Mais ils quittaient une oppression pour en avoir une autre et ils se sont dit on va se battre aussi de ce côté-là pour gagner notre liberté. Après, c'était pas non plus entre guillemets gratuit, c'est qu'ils espéraient que les Français, une fois
Aiderait.
qu'ils seraient libérés, aideraient les républicains espagnols, ce qui n'a pas
Oui,
été le cas.
ça n'a pas toujours. Non, ça n'a pas été le cas. Et après non plus d'ailleurs.
Ouais, ça c'est après, c'est les lois de la politique et de la. Des arrangements internationaux sur certaines choses.
Oui, qui n'ont pas manqué après la.
Après, voilà, une petite parenthèse, c'est que ces arrangements-là ont servi aussi sur les réseaux de la résistance, c'est-à-dire que l'Espagne étant neutre, notamment sur les chemins de la liberté qui ont permis à des résistants de passer de la France en territoire libre et partir à rejoindre De Gaulle
Oui.
en Angleterre ou rejoindre en
En
Algérie.
Algérie.
Mais ça a été permis parce que l'Espagne étant neutre a laissé passer ces gens-là. Voilà. Et je pense que ça fait partie du contrat un peu tacite
Oui.
pour laisser Franco en
Après,
place.
oui, et c'est vrai que à ce moment-là, Franco a joué très habilement.
Il jouait sur plusieurs tableaux.
Oui. Bon, à l'époque, c'était pas, ça pouvait être un mauvais plan, hein. Mussolini, ça a été un mauvais plan. Mais Franco s'en est mieux sorti. Malheureusement pour les
Oui, pour
Espagnols.
les Espagnols, oui.
Donc, comment avez-vous géré l'articulation de la grande et la petite histoire?
En fait, la grande histoire, elle m'a surtout influencé, elle a influencé surtout le début du livre. Parce qu'à partir du moment où l'or est récupéré, en fait, par le groupe de républicains espagnols et par Félix, là, ça, on est complètement dans de la fiction. Donc là, à ce moment-là, la grande histoire n'est plus là, elle est juste en filigrane un petit peu. On la retrouve plutôt dans les histoires
Dander.
parallèles d'Ander et de sa femme, justement, qui, elle, ça m'a permis, justement, l'histoire de la femme d'Ander, de parler de la maternité de Elna, de parler des places d'Argelès, comment ont été traités les Espagnols à leur arrivée. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, ici, là, qu'on a la grande histoire. Et l'articulation du livre, c'est. En fait, c'est très court, c'est
Oui, tout à
3-4
fait.
jours, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des chapitres qui sont assez courts, ça fait partie aussi du dynamisme du roman, quoi.
Bien sûr. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger, vous avez choisi un premier morceau de musique qui est Els Segadors, l'hymne de la Catalogne à l'heure actuelle, qui est interprété par Marina Rossell.
Aquesta és la cançó que va salvar de l'oblit la mare de mossèn Cinto Verdaguer. L'altre, el Virolai, és una cançó de caminants, de peregrins. Aquesta és una cançó que va rescatar de l'oblit la mare de mossèn Cinto.
Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena en darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Ara és hora, segadors. Ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre junt. Esmolem ben bé les eines. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya com fem caure espigues d'or. Quan convé seguem cadenes. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Bon cop de fals. Bon cop de fals.
Parole d'auteur.
Après ce chant partisan catalan, chanté par Marina Rossell, nous évoquons aujourd'hui avec Bertrand Touzel L'or du Vallespir, la légende oubliée des Pyrénées, un roman historique qui est situé à la toute fin de la guerre d'Espagne et publié chez Tedeo Éditions. Tout à l'heure, nous venons d'évoquer ensemble un petit peu la manière dont est construit votre roman, qui est à la fois un roman historique et une fiction. Assumé, un roman un peu d'apprentissage, quelque part, l'évolution d'un jeune homme, Félix, qui va être confronté à des actions de résistance, entraîné un peu malgré lui, un peu par hasard, comme finalement beaucoup de gens dans ces situations, et qui va être entraîné et donc à aider un groupe de 4 résistants. Des républicains qui sont en déroute et qui essayent de récupérer ce fameux or de la République, que la République essayait de mettre de côté à l'abri des nationalistes. Nous discutions un petit peu donc de la structure de votre livre. Et donc, pendant le premier tiers du livre, nous avons affaire à des chapitres très courts, hein, c'est ce que vous nous disiez, qui sont situés dans des lieux différents, qui décrivent de manière très factuelle et concise les actions des protagonistes. Les protagonistes en question étant à la fois notre jeune paysan, les jeunes révolutionnaires qui à l'heure sont encore à Barcelone, Neus, Carles et c'est leurs deux amis.
Louis et Ralph.
Voilà. Donc ça c'est la partie à Barcelone. Félix dans ses montagnes françaises. Et puis des généraux nationalistes qui sont en train d'être au courant de cet or et qui veulent savoir comment tenter de le récupérer.
Même je parle du gouvernement espagnol.
Tout à fait.
En fuite. Ouais. Oui. Le but, c'était d'avoir avec le gouvernement espagnol, les généraux, avoir les deux côtés historiques en fait de. Et là, voilà, cet appareil militaire. Et puis de l'autre côté, il y avait un peu plus humain avec le groupe Durruti, qui est personnifié par Carles. Et en même temps aussi, carrément, la population avec Ander et sa femme. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, Félix, où on sera pour expliquer un petit peu le contexte, comment c'est qu'on était juste, on est juste derrière la frontière, mais il ne se rend pas trop compte de ce qui peut se passer jusqu'au moment où il voit arriver des
Des masses de
réfugiés.
réfugiés,
Voilà. Et donc,
des flots de
c'est vrai
réfugiés.
qu'il découvre, en fait, ça. Et vous parliez de l'engagement de Félix. En fait, voilà, c'est un petit peu Neus qui va définir l'engagement de Félix par rapport à tout ça, quoi. C'est de croiser le
Oui.
regard de Neus qui va le faire prendre des risques qu'il avait pas, elle n'avait pas prévu en fait.
Oui. Mais ça, c'est vraiment, ça, c'est donc dans la partie plus leur histoire personnelle. Donc ça, ce sera encore moi, ce qui m'a interprété, qui m'a interpellé dans la premier, dans le premier tiers, c'est vraiment ces petits chapitres qui sont un petit peu comme des. Pour moi, ça a été un peu comme si je parcourais des Polaroïdes ou
Des
des photos.
instantanés de
Voilà, des
OK.
instantanés de différentes situations. Ou alors les photos, ça m'a aussi fait penser aux photos qu'on accroche sur les tableaux des policiers. Vous savez, quand ils
Ah ouais.
sont dans une enquête, ils mettent ça, c'est l'assassin
Puis
possible,
tirer des fils rouges pour
potentiel.
amener
Voilà, c'est un peu ça.
jusqu'au moment, jusqu'à la, ouais, jusqu'un peu jusqu'à la, au moment de la retirada. Hein, c'est
Voilà.
vraiment le but,
Alors,
c'est ça.
votre livre se termine d'ailleurs sur une photo d'une combattante hein, de la colonne d'Urrutia dont vous nous parlez.
Ouais.
Donc c'est une photo, le photographe est anonyme, la jeune femme aussi, elle sourit, elle est très enthousiaste. On sent tout de suite que vous avez pensé à elle pour Neus ou à une de ses compagnes. Est-ce que, donc lors de la guerre civile espagnole, c'est vrai que l'utilisation de la photo a atteint une intensité qu'on n'avait encore jamais vue. La photo de guerre, d'une certaine manière, doit beaucoup à la guerre d'Espagne. Il y a eu déjà des
Mais la plus célèbre,
photos,
c'est celle
voilà,
de Capa.
oui, celle de
Ouais.
Capa, puis celle des autres qui ne sont pas Capa et qui sont très proches de
Ouais.
Capa. Mais est-ce que là, cette partie de photo, proprement photographique, la partie proprement photographique, tient-elle une place dans votre inspiration?
Alors oui. Oui, parce qu'en fait, pour imaginer Neus, effectivement, on parlait de celle de la photo qui est à la femme. Il y a aussi celle. Alors, j'ai perdu le nom. Il y a une photo célèbre d'une républicaine espagnole prise en haut de l'hôtel El Colón à Barcelone. Et oui, je me suis servi. C'est quelque chose. Je suis très dans le visuel, en fait. Sur mon premier roman, je m'étais servi des photos de Germaine Chomel.
D'accord.
Pour vraiment faire mes tableaux, mes scènes dans la vie quotidienne de Toulouse en 39-45. Et là, un petit peu pareil aussi. Après, on a parlé un petit peu ensemble avant l'interview de ce côté film. C'est plus le côté film qui m'a un niveau qui m'a inspiré là sur l'écriture. Ouais.
Plus que la photo.
Plus que la photo.
Oui, en effet, à partir du deuxième tiers du livre, le décor est planté, et donc l'action proprement romanesque peut être enclenchée. Et donc là, vous avez fait une référence permanente, appuyée,
Des clins d'œil, ouais, effectivement.
c'est plus que des clins d'œil, au cinéma de genre en fait, et au western, et en particulier un style particulier de western, qui est le western spaghetti. Et je me suis demandé d'où vous venait ce choix.
C'était en fait, c'est quand j'ai commencé à écrire, j'ai regardé Le Bon, la Brute et le Truand avec mes enfants. Et ce côté petit groupe qui cherche pendant un gros conflit, là-bas c'est la guerre de sécession, mais qui cherche à s'emparer d'un trésor avec des chevaux, des pistolets, des fusils, en essayant d'échapper à. Voilà, alors c'était les tuniques bleues pour le
Oui.
Bon, la Brute et le Truand, mais là c'est les nationalistes. En fait, tout ça résonnait en moi. Et puis, je connais bien les Pyrénées de ce côté-là, avec ces torrents asséchés. Je voyais bien les chevaux passer. Voilà, j'avais cette idée-là de voir les. Alors, c'est pas ce côté-là des Pyrénées, c'est de l'autre côté les Bardenas,
Oui,
voilà, tout
oui.
ce côté western, parce que le western spaghetti a été tourné en
Tout
Espagne.
à
Hein.
fait, tout
Alors
à fait.
pas Pas dans le nord, un petit peu dans les Bardenas, mais plutôt dans le sud, là où est le point de départ de Judith, mon premier roman.
Donc c'est des lieux que vous connaissez bien,
c'est
puisque
des lieux que
votre
je connais bien.
Famille.
Il y a plein de choses en fait
qui rentrent en résonance.
Je me suis mis à imaginer sur le rythme, et puis voilà, je me suis fait plaisir sur le côté quand justement Carles attend. Attends, l'autre partie du groupe, ça fait penser au début de L'été une fois dans l'Ouest, avec l'homme à l'harmonica, le train qui arrive, etc. Donc il y avait plein de choses comme ça que j'avais envie de voilà.
Après, c'est vrai que je vous ai dit en discutant ensemble que ça me faisait pas mal penser de la littérature italienne. Et c'est vrai que Toulouse a cette place un petit peu particulière, en fait, entre l'Italie et l'Espagne. Et donc, bon, plus espagnol sans doute, mais
Dans l'architecture, on retrouve.
c'est pas si loin de l'Italie. Et bon, il y a eu aussi une immigration italienne
Importante aussi.
Pas forcément avant l'Espagne, mais avant le gros de la provoqué par la guerre d'Espagne. Alors après, il y a ce choix m'a un petit peu gêné par certains côtés. Le côté western spaghetti, parce que dans le western spaghetti, il y a une dimension humoristique et
Burlesque, quoi.
distanciée, un peu burlesque, que je n'ai pas ressentie dans votre roman. Mais en y réfléchissant après, je me suis dit, puis le western fonctionne par archétype en fait. Plus que par. On ne suit pas une analyse psychologique fine dans un western spaghetti. On a face à nous des archétypes,
Des
effectivement.
caricatures.
Hein, le bon, la brute et le
Ouais.
truand.
Mais je retrouve. Ce n'est pas des caricatures
Et
comme dans
justement.
mes personnages, mais on retrouve quand même ce côté. Il y a voilà, le bon, il y a le général qui personnifie. Le colonel, pardon, qui
Oui.
personnifie l'État nationaliste. Ander qui personnifie. Tous les instituteurs et cette répression, cette terreur blanche qu'il y a eu au niveau des. Et puis Rann qui personnifie le côté excessif de certains républicains espagnols. Neus qui, elle aussi, elle est sans être une caricature, personnifie toutes les femmes qui se sont battues dans la colonne du Ruti. Donc voilà, j'avais quand même des personnages qui sont quand même voilà, incarnés, et qui présente à chaque fois des traits de caractère et de gens. Donc on peut retrouver quand même, sans avoir ce côté, c'est dur, c'est sûr que quand on voit Ellie Walsh tourner avec ses mimiques, etc., on n'est pas là-dessus. Quoique on peut les imaginer sur un Carles ou sur un Ran, ces petites mimiques un petit peu particulières, quoi.
Alors après, en relisant ces passages, qui, je vous dis, ça m'a un peu perturbée au début, je me suis demandé si c'était pas une manière aussi d'établir une distance avec les personnages, une distance qui préservait votre sensibilité quelque part, une manière de mettre un peu, parce que c'est quand même très chargé, c'est une période qui est lourde, qui est pas très ancienne et qui entre tellement en résonance avec ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle que peut-être ce biais, ce passage par un petit peu par le cinéma nous permettait d'avoir
Certaines
une
distances.
distance et peut-être bienvenue et peut-être aussi peut-être leur donner un caractère universel. C'est ce que vous sembliez
Oui,
dire.
puis le fait d'alterner ce côté un petit peu cinématographique, ce côté un peu plombant au niveau de l'exil, etc., ça permet d'éviter d'être toujours au niveau du rythme du roman, toujours dans le côté sombre, le côté trop. Voilà. Et donc ça permet un effet de yo-yo émotionnel qui, voilà, justement, ça n'atténue pas l'émotion, mais ça permet, quand elle arrive, qu'elle soit forte. Parce que quand on est tout le temps sur un roman qui est tout le temps fort émotionnellement, au bout d'un moment, on s'use un petit peu sur ce truc-là, tandis que là, de temps en temps, eh bien, on a ce côté action,
Ah
western, et
oui,
d'un
ça
autre
je suis
côté, on se
d'accord.
retrouve sur la plage d'Argelès avec voilà, les enfants, etc. Mais c'est volontairement. Et puis, Nous, auteurs, enfin moi, auteur, quand j'écris, je m'amuse. J'ai la possibilité de créer une histoire, d'amener les gens dans mon histoire et de partir de quelque chose qui n'existe pas et de créer un monde. Et en fait, j'ai envie d'amener les gens sur plein de choses, en fait, et donc me faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, généralement, les gens prennent plaisir à la lecture aussi, quoi.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais oui, vous avez répondu quand même pas mal à cette question. C'est vrai que vos personnages sont à la fois incarnés ou pas toujours totalement incarnés, mais quand même très présents. Et en même temps, ils sont un peu archétypaux, quoi. Ils visent à l'universel un peu aussi. Puisque votre, par exemple, Ander, c'est ce que vous disiez, il est à la fois un homme qui va avoir un enfant, qui vient d'arriver, il est plein d'enthousiasme. Et en même temps, derrière lui, c'est tous les hussards de la République, tous les instituteurs, finalement, de France et de Navarre. Tous ceux qui, à un moment donné, ont eu envie de communiquer quelque chose.
Oui, comme dans Judith, où je faisais... où je faisais évoluer mes personnages dans le Toulouse de l'Occupation en les faisant se frotter à des choses réelles, en fait, ça permet d'amener les gens sans avoir ce côté trop didactique, trop dans livre d'histoire, dans des pages de l'histoire, les faire prendre conscience de ça. Et c'est pour ça qu'à la fin aussi, j'ai une grosse partie annexe où j'explique exactement avec Ander, il est inspiré de tel personnage qui a vraiment existé. Et voilà, ça permet une empathie de la personne, en même temps se dire, ah, mais tiens, mais oui, ça a existé. Comme sa femme qui est sage-femme, qui va aider à la maternité de Elne. Voilà, ça me permet justement... Sur ce personnage de fiction, d'évoquer des événements qui sont vraiment passés au niveau de la place d'Argelès, de la maternité, et d'amener les gens à s'intéresser à une page d'histoire. Voilà.
À ce propos, si vous voulez bien, on va peut-être faire un peu de lecture de votre texte.
Oui.
Justement, sur le moment où Félix arrive à la plage d'Argelès, qui a été transformée en une nuit. Un refuge précaire.
Un lieu de stockage.
Oui.
C'est le mot stockage. Voilà.
Oui, c'est-à-dire le dernier endroit où on peut aller. Quoi. Après, voilà. Il y a la mer. Quoi.
Voilà, et où on les acceptait, en fait.
On les acceptait ou les tolérait. Et il y a des photos, d'ailleurs, absolument sublimes. Enfin, sublimes et terribles, quoi.
Mais j'encourage les gens à aller soit au camp de Rivesaltes,
oui.
Au mémorial de Rivesaltes, soit carrément aussi à un mémorial à Argelès.
Je n'ai pas vu celui d'Argelès, celui de Rivesaltes était exceptionnel, hein. C'est très bien fait.
Oui, c'est très bien fait. Et puis, alors, le truc d'Argelès, c'est purement guerre d'Espagne. Rivesaltes, on prend tout, il y a tout un contexte au niveau des réfugiés, parce que ben, c'est un camp qui a servi à pas mal de personnes. Hein, ouais.
Tandis qu'Argelès, heureusement... Ouais. A duré moins longtemps. Cette plage, Félix la connaît. Elle est immense, habituellement déserte en cette saison. Les mouettes volent joyeusement, et le sable, sans trace de pas, est comme une ceinture d'or entre l'eau bleue et la plaine verte. Aujourd'hui se dresse devant lui une ville où les hommes creusent des puits, prient, chantent leur peine, dorment sur des matelas d'algues de sable. Une ville de carton, de valises, des murs de papier et de cuir que l'on dresse comme des remparts contre ce vent glacial. Une ville de plus de 100 000 habitants. Une ville de réfugiés, de personnes qui ont tout perdu. Les villes des hommes naissent lentement. Leurs histoires s'écrivent au fil des siècles, des conquêtes, des victoires, sont le fruit de leur volonté, de leurs rêves de grandeur. Celle-ci a poussé sans aucune envie, sans aucun désir. Son existence est subie, imposée. C'est une ville de défaite. Comme si la perte de l'Espagne à elle seule ne suffisait pas, qu'il fallait y rajouter l'exil, la faim, la honte, l'humiliation. Un garde pousse un réfugié qui vient de s'accrocher au grillage, le traite d'espagnol de merde, d'espinguin. Félix observe cet homme rougeau, bedonnant, profitant de sa supériorité d'apparat. Ce mot qu'il déteste par-dessus tout. Qu'est-ce que tu regardes ?
Je te regarde, toi et ta trouille, vous me faites pitié.
Tu veux prendre sa place ? Qui nous dit que ce ne sera pas bientôt l'un d'autre tour ?
À côté de lui, des enfants assistent au spectacle, celui de ces bêtes enfermées dans une cage.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Parole d'auteur.
Après cet hommage aux partisans par Leonard Cohen, reprenons notre conversation, Bertrand Touzet, au sujet de votre livre « L'or du Vallespir, la légende oubliée des Pyrénées » chez Tédéo Éditions. Et intéressons-nous maintenant à son titre. « L'or du Vallespir » Ça provoque la réflexion parce que c'est une extrapolation en fait. C'est l'or de l'Espagne, c'est pas l'or du Vallespir. Et en plus, dans votre livre, il ne fait que transiter par cette partie française de la Catalogne. À moins que l'or véritable du Vallespir ne soit pas de l'or, ne soit pas un métal ou même les tableaux précieux qui ont transité. Mais c'est peut-être cette vie paysanne ancré dans une nature puissante, le véritable or du Vallespir.
Et cette nature, ce rapport paysan, vous avez su le rendre avec peu de mots et beaucoup de sensorialité. Il y a beaucoup de sensualité, mais tout en retenue. Et il y a aussi toute cette sensorialité, tous ces sens aux aguets que vous avez su mettre en avant, finalement. Plus que la psychologie des personnages, on est sensible à leur... on prend conscience de leur être profond par leur contact avec l'extérieur, en fait. Je vais juste lire un extrait. C'est Félix dans la campagne, dans sa forêt natale. C'est au début du livre, contrairement à l'autre passage que j'ai lu. Félix soulève des feuilles mortes tombées sur le sol, frotte sa semelle sur une bogue à peine ouverte, libère deux châtaignes. Il ne ramasse que la plus grosse, regarde autour de lui. C'est rare d'en trouver encore à cette saison. Il marche à travers le chaos de roches et, après avoir vérifié une dernière fois d'où vient le vent dominant, enfonce le fruit dans la terre à l'abri d'une pierre dressée. Au cours des saisons, des allées et venues en montagne, Félix ramasse les châtaignes, les faînes, les glands de graines de chêne vert, de chêne liège, pour les planter ailleurs. Depuis qu'il a commencé à semer la terre, la plupart n'ont rien donné, mais d'autres sont sortis. Certains ont servi d'encas ou cervidés, mais des chanceux ont grandi, les tiges ont mis des feuilles. Il les reconnaît et, touchant leur tronc frêle, en tire une certaine fierté, même s'il sait que jamais ses chaînes ne lui feront une ombre suffisante. Son père lui a appris que l'on ne plante pas des arbres pour soi, mais pour ses enfants, et les enfants de ses enfants. Ils sont le témoin que l'on se passe. De la même manière, écrire sur l'écorce d'un arbre choisi avec soin le nom d'un disparu, d'un ami parti. Un panthéon sylvestre au cœur de la montagne, un lien indéfectible entre les hommes et les arbres. Donc, proximité de Félix avec la nature, proximité de cette connivence, je dirais, qu'il y a entre ces hommes paysans attachés à leur terre, mais leurs animaux domestiques et les animaux sauvages également. Toute cette géographie à la fois intime et extérieure de la forêt. Vous arrivez à très bien la rendre. L'extrait que j'ai viens de lire, vous nous signalez que c'est une forme d'hommage à Giono.
À Jean Giono, oui, l'homme qui plantait des arbres.
Mais quels sont vos autres auteurs fétiches ou auxquels vous pensez ?
J'ai pas de personne qui vraiment m'inspire. Pas d'auteur de référence. Là, l'homme qui plantait des arbres, en fait, s'il y a un livre que j'aime offrir, les gens disent, ouais, Le Petit Prince, j'aime l'offrir, machin. Moi, c'est l'homme qui plantait des arbres. Parce que pour moi, mais il réunit plein de choses, en fait, au niveau de la philosophie de la vie, de ce rapport avec la nature. Et je vais revenir à ce que vous parliez là, sur mon écriture sensorielle, sensitive. Pour moi, c'est important dans ma description d'avoir l'odorat, l'ouïe, voilà, plein de sensations, et presque plus que la vue, en fait. Pour moi, c'est important de décrire, c'est le toucher et presque envie d'entendre la nature plus que de la voir, en fait.
L'odeur du tabac.
C'est ça, il y a plein de choses.
Savon,
voilà,
des petites choses.
Des petites descriptions. Bah, je trouve, moi, quand on décrit une pièce, les gens n'ont pas forcément besoin de savoir qu'il y a une table, une chaise. On s'en fiche un petit peu. Les gens peuvent l'imaginer, ça. Par contre, une odeur de suie, l'odeur d'un ragoût qui boue, des choses comme ça, pour moi, ça donne une structure Ça permet de vraiment se sentir dans la pièce à ce moment-là, quoi. Voilà. Pour revenir sur l'or du Vallespir, je suis tout à fait d'accord avec vous. Même on peut rajouter, ça peut être Neus, l'or du Vallespir, à un moment donné. Ouais. Dans l'esprit de Félix et de ses amis, quand ils la voient arriver, qu'ils comprennent pourquoi Félix fait tout ça, quoi. Voilà, il y a ça. Et pour, juste par rapport aux partisans aussi, c'est... J'ai choisi ce morceau de l'entendre aujourd'hui, puis il y a trois paroles du chant des partisans qui sont à la fin du livre. C'est Félix qui les dit sur la plage quand, je vais pas tout divulgâcher, mais quand il se retrouve tout seul. Mais voilà, lui, là, à partir de là, il ressent ce que ressent le partisan, c'est-à-dire il n'est pas tout seul. Il comprend qu'il fait partie d'un tout et d'une idée qui est importante à défendre. Voilà.
D'une idée qui est importante à défendre et d'une colonne vertébrale aussi. Comment être un homme. C'est intéressant de voir comment il va reprendre un petit peu le... À la fois, il va désobéir à son père, puisque son père voulait qu'il reste à la ferme. Et lui va prendre un autre chemin. Et en même temps, il est totalement fidèle à la fois à son père et à ses amis et à cette ligne de droiture, en fait.
Oui, il désobéit à son père, mais son père a quand même m'en donné l'aide. Parce qu'il est tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire il le laisse lui désobéir à un moment donné.
Oui.
Il comprend voilà, ce qu'il est en train de faire et il... Il ne l'encourage pas, mais voilà, il le soutient.
Il le suit derrière.
Voilà, c'est ça.
Bah justement, c'est là où il y a un moment très fort de connivence, en fait, où on sent bien cette connivence entre les êtres, le groupe communautaire du village, le groupe des amis, qui est un peu étouffant parfois, mais qui est quand même présent quand il faut, et les animaux. Puisque
c'est comme tout lieu, en fait,
vous parliez
de mon rapport avec les montagnes, c'est comme tout lieu, les montagnes sont quelque chose de magnifique, mais c'est un lieu hostile.
Oui.
Et donc, comme tout lieu hostile, on a besoin de se recentrer, de se serrer les coudes, et voilà, on le retrouve ça dans les rapports entre les hommes, et ce côté... En même temps, dépendre de sa nature, ça méfier, et en même temps, ça fait partie de leur être.
Oui, ils ne peuvent pas vivre sans. Donc, ils sont obligés à cette...
De toute façon, c'est leur gagne-pain aussi, là, la nature. Dans ce coin-là, ils sont charbonniers, ils sont bûcherons, ils sont éleveurs, et voilà, c'est leur... C'est leur cadre de vie, mais c'est aussi un gagne-pain à part entière.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait cette connivence avec les animaux, parce que les animaux aussi, ils sont liés à un lieu et ils ne vivent que parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe autour d'eux. Le rapport avec le concret...
Ça devrait être vrai partout, c'est-à-dire qu'on l'a perdu, ce rapport à la nature, au fait que l'être humain pense qu'il est tout seul à vivre dans... Sur cette terre.
Oui, et puis il va dans son placard, il ouvre un paquet de gâteaux, il ne se demande pas qui a fait ce pain-là, d'où ça vient, ça, il n'est pas allé le chercher.
Alors, je ne sais pas dans quel roman je le dis, mais pour les gens, des fois en ville, les saisons se limitent à un arbre qui perd ses feuilles et qui les remet au printemps. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est une belle leçon de vie que vous nous donnez avec ce roman. Je crois que vous en avez d'autres de prévus, alors.
Oui, j'ai plusieurs projets en cours.
Donc, un historique, les autres aussi seront liés à l'histoire
Non, alors j'ai un projet en ce moment chez TDO, roman historique. Toujours pendant la Résistance, j'en parlais un petit peu dans l'émission. Là aussi, j'avais pas prévu forcément de repartir sur cette période-là, mais je suis tombé sur une anecdote d'un avion de la Royal Air Force qui s'est crashé dans les Pyrénées en volant réalimenter un maquis qui était le maquis de Nistos et d'Asparos.
D'accord.
Voilà, après, j'ai d'autres projets différents, type roman contemporain sur l'adolescence, et un peu plus dans la veine de ce que je faisais avec Aurore, Immortel et tout ça. Et puis un projet en parallèle, là... se passe. C'est dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.
D'accord, donc là, vous
des
prenez...
Des choses, trois choses complètement différentes.
Là-dessus, vous prenez la tangente, là.
Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir des projets différents pour, comme je dis, ça, on est là aussi, nous, pour nous amuser quand on écrit.
D'ailleurs, peut-être une dernière question. Comment conjuguez-vous l'écriture avec votre vie professionnelle et familiale aussi, puisque
ça fait partie de mon quotidien. Ouais, c'est une habitude que j'ai quand je travaille, j'ai toujours mon ordinateur ou une feuille prête et là j'ai des idées. Ça fait partie de ma part créative dans mes journées qui sont longues. Je suis masseur kinésithérapeute, oui, comme je disais, donc je vois pas mal de patients et tout ça, et j'ai besoin d'avoir des fois, même si c'est 5 minutes, penser à quelque chose et je l'écris. J'ai pas cette peur de la page blanche et de me retrouver face à mon écran et de ne rien dire pendant 2 heures. En fait, quand je me mets à écrire, ça vient assez vite. Voilà, j'ai une écriture qui est assez simple et qui il me permet de me lancer.
Est-ce que vous retravaillez beaucoup parce que c'est un style très dépouillé, donc je me suis demandé si vous étiez du style à élaguer ou est-ce qu'au contraire vous relisez puis vous dites tiens j'ajoute un peu.
J'ai plutôt tendance à ajouter, c'est-à-dire j'ai un premier jet où j'ai mon fil de conducteur et petit à petit je vais broder autour justement les sensations, des choses qui vont venir. Je vais, comme quand on fait un tableau, en fait, au début, on a l'esquisse, et petit à petit, on rajoute des choses. Et voilà, c'est un petit peu comme ça. Voilà, oui. Je n'ai pas une écriture linéaire, je veux dire, je ne pars pas je n'écris pas tout d'un coup de manière continuelle. J'ai tendance à revenir. C'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des chapitres courts. Ça me permet de passer d'un début, revenir,
de faire en étoile un petit peu.
Voilà, j'ai tendance à faire des allers-retours, en fait, dans mon roman.
Très bien. Le temps passe, il est temps de nous quitter. Bertrand Touzet, je rappelle le livre de votre ouvrage, L'or du Val-Espire, la légende oubliée des Pyrénées, publié chez TDO Éditions. Rappelez-vous, chers auditeurs, que vous pouvez facilement retrouver cet entretien sur le site de Radio Présence et en podcast sur toutes les plateformes numériques. Et à bientôt pour une prochaine émission.